Oui? Eh bien, je vais vite alors, je vais laisser tomber des trucs et juste dire ceci. Bon. Donc, maintenant, vous avez un mouvement qui est décrit. On n'est pas simplement dans deux choses figées. Donc d'abord, je suis dans mon imaginaire. Quand le réel vient, je le repousse. Et ce n'est que progressivement, que petit à petit, on arrive à se réconcilier avec la réalité. Maintenant, il y a une question qui pourrait, comment vous brûler les lèvres, ou qui pourrait surgir à un moment donné, qui est, bon, d'accord, bah, d'accord avec tout ceci, éventuellement, hein, pourquoi pas. Mais en attendant, pourquoi ce serait intéressant de se réconcilier avec la finitude, solitude, incertitude? Qu'est-ce que ça amène? Parce qu'il y a des gens qui, quand on leur raconte les choses et qu'on s'arrête là, c'est pour ça que je suis un peu embêté vis-à-vis de l'heure. Mais quand on s'arrête là, ils disent ben d'accord, il faut peut-être accepter ça, mais qu'est-ce que c'est tragique comme vision d'existence? On a une finitude. C'est vrai que ça semble tellement avoir une vie rétrécie tout d'un coup. Hein. Solitude, ben c'est désespérance, machin-là. Hein. Et puis alors, quand on vient rajouter, en plus, la vie peut toujours reprendre du jour au lendemain. Mon Dieu, panique à bord. Hein. Donc c'est vrai que, je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez, mais souvent les gens, quand on commence à discuter autour de ça, ils disent « c'est peut-être vrai ce que vous racontez, mais enfin, misère, quoi, ça rend la vie lourde, quoi, triste, hein, comme un ciel, enfin non, aujourd'hui ça va, il y a du soleil, mais hein, donc gris, enfin je ne sais pas, enfin, voilà, il y a des gens qui trouvent que c'est désespérant. » Alors, deux réponses par rapport à ça, et je vais terminer avec ça. La première réponse est la suivante, c'est que, si effectivement on juge, on a l'impression quoi, hein, que la finitude, solitude, incertitude que nous sommes, avec tout ce que ça signifie qu'on a expliqué hier, s'il est vrai qu'on le vit comme quelque chose de triste, de tragique, d'un peu étroit si vous voulez, enfin un peu désespérant quelque part, eh bien on vous dira, c'est tout simplement parce qu'en réalité vous continuez à juger ce que nous sommes à la lumière de notre imaginaire. Donc, je vais vous expliquer, c'est très simple à comprendre. Si la finitude, le fait qu'on est limité, vous semble être un fardeau, ben, c'est parce qu'en réalité, vous continuez à rêver que ce serait mieux si on était tout-puissant. Et au regard de la toute-puissance, c'est vrai que venir dire qu'on est fini, misère, tout d'un coup, plouf, on rétrécit le champ, quoi. Quand on rêve de pouvoir rejoindre les gens qu'on aime, ben, c'est vrai que de venir dire qu'on a une solitude, c'est aussi pour se flinguer, quoi. C'est désespérant, cette affaire-là. Donc, ça veut dire que dans tous ces jeux-là, quand on trouve que la réalité que nous sommes, s'il est vrai que nous sommes une finitude, solitude, incertitude, évidemment. Enfin, moi, je le pense, mais maintenant, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, et alors là, il faudra me démontrer que je me trompe. Donc, s'il est vrai que c'est ce que nous sommes, de trouver ce que nous sommes, petit, misérable, désespérant, traduit en fait le fait que vous comparez, que vous continuez à vous accrocher à vos désirs, que vous en faites toujours la mesure de toute chose, et que vous prenez ça pour tellement la réalité qu'on devrait être, que du coup, on ne peut que désespérer de ce que nous sommes. Comprenez? Ça veut dire qu'en d'autres termes, on n'a pas fait le deuil de nos désirs. Or, tout ce que je viens de vous raconter, c'est que si on veut continuer à vivre, ce que l'on doit faire, c'est le deuil, donc c'est ce processus par lequel on se libère de ce qu'on n'est pas, pour essayer de se réconcilier avec ce que l'on est. Eh bien, plus vous allez vous libérer de ce que vous n'êtes pas, de cette toute-puissance, de cette fusion, de cette vie dans laquelle tout serait du soi-disant et ce genre de choses, plus vous vous en libérez, plus vous en faites le deuil, moins vous comparez ce que vous êtes avec ce qui n'existe nulle part, ce qui n'existe pas, et plus vous allez être, ça ce sont les sagesses philosophiques qui disent ce genre de choses, et plus vous allez pouvoir être dans ce qu'on appelle en philosophie l'acquiescement. C'est-à-dire, plus vous allez pouvoir accepter ce que vous êtes, sans que ça ne soit triste, sans que ça ne soit désespérant, c'est tout simplement ce que vous êtes, point. Alors vous allez me dire, il n'y a pas encore de bonheur. Ça, c'est vrai. Mais il n'y a plus de tristesse. C'est le début. C'est un bon début. Hein, vous comprenez? Voilà. Donc, quand vous dites quelque chose est misérable, c'est toujours à la lumière de ce que vous pensez être adorable. D'accord? Et si vous perdez le point de comparaison, ben, il n'y a plus qu'une acceptation. Voilà, c'est la règle du jeu. Que vous le vouliez ou pas, quand vous voyez des gens qui ne supportent pas ce qu'ils sont, ben on les voit se démener, mais en attendant, ils se démènent avec ce qu'ils sont, et ils sont quand même bien des êtres limités. Que vous le vouliez ou pas, c'est ce que nous sommes. Donc ici, tout le chemin que l'on raconte, hein, dans ce que je vous raconte ici, permet, souvenez-vous de saint Paul, l'amour jusque dans la clairvoyance, ça permet de vivre ce que l'on est en clairvoyance. C'est-à-dire, hein, pour jouer avec le truc, où maintenant je comprends à quoi je joue. Je sais ce que je suis. Enfin, en tout cas, je sais un morceau de ce que je suis. Je ne prétends pas qu'on se réduit à ce que je raconte ici. Mais c'est un morceau du voile qui se lève, si vous voulez. Et ça permet du coup de comprendre les autres, de se comprendre soi-même, de pouvoir commencer à se positionner. Donc c'est vrai qu'on n'est pas encore dans le bonheur, parce que le but du jeu, c'est quand même d'essayer de comprendre cette question-là. Mais en tout cas, ça commence à aller mieux. acceptation, donc acquiescement, comme on le dit. Donc l'acquiescement, ce n'est pas la résignation. Hein, que ça soit bien clair, s'il faut faire des distinctions pour qu'on précise les choses. La résignation, c'est j'accepte de force, contraint, sous-entendu. Si ça pouvait être autrement, ce serait encore mieux quand même. Quoi. Mais enfin, comme on n'a pas le choix, il faut bien accepter. Ça, c'est la résignation. Ce n'est pas de l'acceptation. C'est l'acceptation forcée, si vous voulez. Quand vous êtes dans l'acquiescement, il n'y a plus ce serait mieux si c'était autrement. C'est la règle du jeu. Et donc, je l'accepte positivement. On vous dira même joyeusement, mais enfin, bon, ça ne faut peut-être pas exagérer pour le moment, mais en tout cas, positivement, certainement. Maintenant, deuxième chose, parce que si, évidemment, on s'arrêtait là, on pourrait dire, bon, d'accord, on peut acquiescer à la réalité, mais ça me fait une belle jambe. N'entendant, c'est quand même mieux de rêver qu'on est tout puissant, c'est quand même mieux de... Donc, oui, et puis, et alors, hein, quand on a fait ça, eh bien, ce que je dois rapidement vous montrer, c'est que plus vous acceptez, effectivement, cette réalité que nous sommes, finitude, solitude, incertitude, et plus ça va vous donner la possibilité d'être heureux. Curieusement, alors que dans un premier temps, ça peut sembler triste et sinistre. Alors, je vais vite vous raconter ça. Donc, la finitude, plus vous l'acceptez, plus ce que vous allez rendre possible, c'est trois choses, et qui vont vous aider à vivre effectivement. Et là, on commence à être dans des choses positives. Ce n'est peut-être pas encore le bonheur, ça va arriver tout à la fin, mais ça devient de la joie possible dans la vie. Première chose, c'est que si vous êtes à l'aise avec vos limites, eh bien, quand vous ne vous en sortez plus dans des choses que vous voulez entreprendre, eh bien, ce que ça rend possible sans qu'il n'y ait plus de honte, de remords ou de culpabilité, c'est qu'on demande de l'aide. Et ça va de soi. Plus vous êtes à l'aise avec la finitude, plus quand je suis en difficulté, ben, ça va de soi que je demande. Les autres sont libres de refuser de toute façon, mais il y a plus ce frein qui est « oui mais non, il ne faut pas déranger les autres, oui mais non », enfin, tous les trucs qu'on peut s'inventer pour ne pas demander finalement. J'ai mes limites, donc j'ai besoin des autres. On vous dira, si vous voulez aller plus loin, hein, quand on veut développer ça, ça veut dire que nous sommes des êtres interdépendants. L'idée que nous serions soi-disant autonomes, c'est une illusion. Pourtant, Dieu sait si l'idéologie collective, c'est l'autonomie des individus, etc. En tant que nous sommes finis, nous avons besoin des autres, et donc c'est la solidarité, qui est en fait le vrai mot, enfin le vrai mot en français en tout cas, c'est un concept qu'on pourrait garder pour dire la réalité de ce que nous sommes, ou bien si vous voulez le dire autrement, c'est l'interdépendance. Donc la notion d'autonomie, hein, que l'on, enfin bon, je ne vais pas développer ça, sinon on est parti pour un quart d'heure, mais la notion d'autonomie, hein, que l'on vante, quand on éduque nos enfants, on essaye de les rendre autonomes soi-disant, c'est faux. C'est une façon inappropriée de parler de ce que l'on fait en réalité. On a besoin de dépendre des autres. Hein, donc juste un exemple pour parler de cela. Si effectivement vous étiez soi-disant si autonome que vous le dites, qu'on le dirait spontanément, eh bien, je raconte ça à mes étudiants quand je parle de ce sujet-là, je dis, eh bien, vous laissez dans la pièce tout ce qui ne vient pas de vous, parce que soi-disant, vous ne dépendez de personne. Ben, ça veut dire qu'on ressort tout nu, quoi. Vous comprenez ? Enfin, donc, on a besoin des autres, ben, les vêtements, ce n'est pas moi qui les fais, je suis venu par le train, donc je dépends des autres, enfin, tout ce que vous voulez. Ce qu'on mange, ben, ce n'est pas moi qui les produis, même si c'est moi qui ai cuisiné, mais enfin, j'ai dû prendre des produits qu'on a fait ailleurs. Enfin, on est des êtres interdépendants fondamentalement. Et donc, c'est vrai que c'est tout à fait bizarre, cette culture occidentale qui prône l'autonomie. En fait, l'autonomie, c'est la toute-puissance rêvée. Si on était suffisamment tout-puissant, on serait autonome. Mais en réalité, nous sommes finis et donc nous sommes interdépendants. Et voilà, il faut bien qu'on accepte cette affaire-là, évidemment. Mais voilà, plus vous l'acceptez, sans plus vous juger à la lumière de l'idéologie de l'autonomie, ben, ce n'est pas humiliant de demander de l'aide. Ça devient une chose normale. Et ça vous simplifie la vie quand l'autre accepte, évidemment, de vous aider. Deuxième chose, c'est que comme on est fini, l'expérience que l'on fait, c'est tout simplement qu'on peut se tromper donc, dans ce qu'on fait. Donc ce n'est pas simplement qu'on ne s'en sort pas tout seul et qu'on a besoin d'aide, mais c'est aussi le fait que je peux parfois faire du mal sans le savoir, je peux me tromper, enfin voilà, donc c'est toutes les petites bêtises de la vie de tous les jours, eh bien ça devient beaucoup plus facile de demander pardon. Donc c'est la place du pardon. Quand vous êtes dans la toute-puissance, demandez pardon jamais. Tout ce que je fais, c'est bien. Viens pas dire que j'ai mal fait en plus, hein. Et donc je vais me justifier à l'infini. Jamais demander pardon, parce que ça, ce serait un aveu de faillite, un aveu de faiblesse. Quand vous êtes à l'aise avec la finitude, eh bien, je peux reconnaître faire du tort aux autres. Donc, je ne parle pas des gens qui ont l'intention de nuire. Hein. Donc, c'est, voilà, j'essaye de faire ce que j'ai à faire, de dire ce que j'ai à dire. Ça peut choquer, ça peut... Ben, le but, ce n'est pas de choquer. On peut le reconnaître beaucoup plus facilement. Et c'est vrai que ça simplifie la vie aussi, par conséquent. Et par conséquent, donc, le pardon devient possible. évidemment. Enfin, il faudrait développer ce sujet-là, mais on n'a pas le temps. Et puis la troisième chose que vous rendez possible, qui va aussi vous soulager l'existence, et ça devient enfin, vraiment une... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est très important, c'est tout simplement ce que Voltaire appelle la tolérance. Hein, vous savez, si vous lisez le petit traité sur la tolérance de Voltaire, donc pourquoi est-ce qu'il faudrait être tolérant? Qu'est-ce qui est à la base de cette attitude-là? Hein, pourquoi est-ce que c'est une vertu? Ben, tout simplement parce que, dit Voltaire, nous n'avons pas la vérité. Donc plus vous acceptez votre finitude, plus vous savez que vous n'avez pas la vérité. Vous n'avez jamais qu'une interprétation qui est la plus sincère possible, c'est ce qu'on espère en tout cas, mais en attendant, c'est jamais qu'une interprétation. Et plus vous comprenez que vous n'avez qu'une interprétation, ben les autres ont le droit de penser différemment. Si j'avais la vérité, non. J'ai la vérité et vous devez être d'accord, et il n'y a pas de négociation possible. Mais quand vous vous êtes libéré de toutes ces illusions-là, ben du coup, on peut commencer à discuter. Hein. Et que vous ne soyez pas d'accord avec moi, ça ne me détruit pas. Ça me remet en question éventuellement parce que vous avez peut-être plus raison que moi. Ou bien nous avons deux opinions différentes et on a le droit d'avoir des opinions différentes. Vous comprenez? C'est vrai que plus vous allez être dans la finitude, plus le fait que les autres pensent différemment de vous, ce ne sera pas une objection pour votre vie. Plus vous êtes dans la toute-puissance, j'ai la vérité, donc les autres doivent penser comme moi, et c'est inacceptable s'ils ne pensent pas comme moi. Et alors là, le dialogue devient impossible, évidemment. Et donc, quand vous êtes dans la finitude, ça vous libère. Je peux parler, je peux être sincère, l'autre a le droit de ne pas être d'accord. Et c'est pas qu'il s'en prend personnellement à moi, mais étant donné ce qu'est sa vie, je comprends, je peux comprendre pourquoi il pense ce qu'il pense. Et on peut essayer de trouver un arrangement ou pas d'arrangement possible. Enfin, vous libérez la tête de toute une série d'exigences qui vous polluent l'existence, qui fait qu'on est dans la peur, qui fait que je ne sais pas quoi, enfin tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que là, on commence à goûter au bonheur. Mais on n'y est pas encore. C'est pas encore du bonheur à proprement parler, c'est plutôt une espèce de simplification de la vie, une légèreté d'existence. Quand vous êtes dans la solitude, plus vous acceptez la solitude sans la juger à ce désir de fusion, tout ce que vous voulez, qu'est-ce que vous rendez possible qui va aussi vous simplifier l'existence? Ce n'est pas encore du bonheur, mais ça devient quand même, on s'en rapproche tout doucement. Eh bien, il y a un point qui est important. Il y a d'abord la tolérance, évidemment, hein, que vous retrouvez ici. C'est un deuxième pilier de la tolérance. C'est non seulement que je n'ai pas toute la vérité, mais solitude, l'autre n'est pas moi. Et donc forcément, il a le droit de ne pas penser comme moi. Non seulement parce que je n'ai pas la vérité, mais parce que c'est quelqu'un d'autre. Rien que pour ça déjà. Il a le droit de ne pas vivre comme moi, ben parce que ce n'est pas moi, tout simplement. Enfin, donc c'est vrai que la solitude rend à l'autre son droit d'être différent. Et ça, du coup, on n'est plus blessé, perturbé ou choqué ou je ne sais pas quoi. Évidemment, enfin, on est dans un autre rapport, hein, qui devient beaucoup plus sain. Mais maintenant, ce qui est aussi plus important, je trouve, c'est que quand on accepte la solitude, on peut s'autoriser beaucoup plus facilement à être vrai dans le rapport à l'autre. C'est-à-dire, quand vous êtes dans le désir de fusion, hein, vous comprenez ce qu'on recherche, on recherche toujours le consensus. Il faut qu'on puisse penser pareil tous. Et donc on va argumenter pendant des heures pour qu'on fusionne, c'est-à-dire qu'on pense tous la même chose, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et évidemment, ça coince, puisque les gens ne sont pas comme... Hein, ils ont leurs convictions, etc., etc. Et du coup, c'est le combat. Et du coup, c'est l'exclusion. Enfin, c'est tout ce que vous voulez, enfin, tout ce qu'on connaît. Quand vous êtes dans l'acceptation de la solitude, j'ai le droit de dire ce que je pense, même si ça choque les autres. Ils ont le droit d'être choqués, et c'est ça qu'on rend possible, parce qu'une fois encore, hein, vous avez compris l'idée, leur vie ne m'appartient pas. Et étant donné ce qu'ils sont, ben, je peux comprendre qu'ils soient choqués. Mais en attendant, quand vous avez remis de l'espace dans vos relations avec les autres, j'ai le droit néanmoins quand même de penser ce que je pense. Vous vous rendez ce droit-là. Donc le but, ce n'est pas de détruire les autres, vous comprenez, on n'est plus là-dedans, hein. C'est, j'ai le droit de témoigner de ce qu'est ma vie, de ce que sont mes pensées, de ce que sont mes convictions, et je peux le faire d'autant plus simplement et d'autant plus librement que j'ai rendu à l'autre la possibilité de ne pas y adhérer. Ça me permet d'être vrai. Quand je suis dans le consensus, c'est la peur que les autres ne m'aiment pas, si vous voulez, pour le dire autrement. Hein, il faut qu'on s'entende. Mais c'est vrai que quand vous êtes dans le désir d'être aimé par les autres, ben vous êtes en fait, hein, on en a parlé hier, vous êtes plutôt dans le camp des faux selfs. Je ne vis qu'à travers l'approbation des autres. Du coup, ça devient quoi vos relations? Ça devient des relations hypocrites. Je ne dirai pas ce que je pense, mais je dirai ce que je sais qui va plaire aux autres. Et du coup, est-ce que vous êtes encore sincère? Est-ce que vous êtes encore vrai? Ben, dans certains cas, oui, parce que ça tombe bien, mais dans les autres cas, je vais mentir. Et ce sont des relations qui se détricotent. Pour être vrai, il faut d'abord se libérer de la peur de décevoir les gens. Ou si vous voulez, il faut se libérer de l'exigence qu'ils m'aiment. Et à ce moment-là, alors, je peux commencer à exister pour ce que je suis et être enfin vrai dans ce que je suis. Mais tant que je veux l'amour des autres, il n'y a rien à faire. Hein. On est coincé, évidemment. Hein. Donc, la solitude n'empêche pas les relations. Hein. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit hier? Ça met dans les relations du jeu. Ça rend à l'autre ce qui lui appartient et ça m'autorise, moi, à être vrai. Et puis, donc, je vais terminer avec ça parce que le temps passe. Quand on parle de l'incertitude, ça, c'est le pire quand même. Hein. Le fait que la vie peut tout nous reprendre. Ben là, pour dire qu'il y a moyen de trouver quelque chose de positif, c'est peut-être pas évident. Et pourtant, c'est le cas. C'est quelque chose qui est positif. Donc le premier réflexe, c'est quand même la peur hein, d'une vie qui, de fait, peut être quand même assez impitoyable. Mais quand vous traversez le miroir, quand on essaye de se réapproprier cette vie-là qui peut tout nous reprendre, eh bien, en fait, vous rendez possible quatre choses. Et on va arriver à la question du bonheur. Première chose. Quand on se réconcilie avec l'incertitude de l'existence, qu'est-ce que vous, dans quel état êtes-vous ? Ben, vous êtes dans cette situation, je ne sais pas vous en parler autrement, donc je ne suis pas encore content de la façon d'en parler, mais enfin, bon, voilà, c'est comme ça que j'en parle. Vous êtes dans cette situation où on a envie d'être heureux. Hein, le désir d'être heureux est toujours là, évidemment, mais simplement, ce que je sais quand j'ai fait tout le travail que je vous ai évoqué ici, c'est que je sais que ce n'est pas parce que je désire être heureux que je serai heureux, ça ne m'est pas dû. Ah, maintenant, ça c'est clair dans ma tête. Enfin, donc j'ai beau le désirer, c'est pas comme ça que ça va manifestement. J'ai envie que les gens que j'aime soient heureux, ben, je peux le désirer pendant des heures si je veux, toute ma vie si je le souhaite, mais c'est pas comme ça que ça marche. Mes enfants peuvent être malheureux quand même, évidemment. Donc, désir peut-être, mais en attendant, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais pourtant, je continue à avoir envie que les gens que j'aime soient heureux et j'ai envie d'être heureux moi-même. Donc, ce dans quoi je me trouve, c'est je sais que même si je désire être heureux, ça ne m'est pas dû. Eh bien, quand vous vous réconciliez avec ça, qu'est-ce que ça va vous donner concrètement ? Non pas l'abattement ou la résignation dont on a parlé tantôt, mais en fait ce que ça vous donne quand on est dans l'acceptation positive de cela, ça vous donne ceci. Eh bien, puisque j'ai envie d'être heureux, mais que je sais que ça ne m'est pas dû, eh bien, bougez-vous. Ça ne dépend que de vous. N'attendez pas que ça vienne du ciel, quoi. Il n'y a rien qui est dû dans cette vie. Si vous voulez être heureux, ça ne dépend que de vous. C'est un peu la petite phrase que vous connaissez peut-être. Ça, je crois, dans une. Je n'ai pas retrouvé l'auteur qui parle de ça. Je pense que c'est dans la tradition juive, hein, où vous avez quelqu'un qui se plaint comme ça devant Dieu en disant « Mais enfin, tout ce mal, c'est pas possible. Comment est-ce possible que tu fasses un monde aussi mauvais ?» Mais il dit ça comme ça, lui. Hein. Enfin, bon, il est en colère, quoi. Hein. Donc, un peu un Job, si vous voulez, mais ce n'est pas à propos de Job. Hein. Et alors, vous avez le ciel qui se déchire et Dieu qui parle. Hein, et Dieu dit, mais qu'est-ce que tu me dis là ? Ben tu ne fais rien. Comment je ne fais rien ? Dit l'autre. Et alors il s'adresse évidemment au bonhomme qui se plaint et il dit, mais je t'ai créé toi. Et donc bien sûr que j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc, vous voulez être heureux ? Quand on est dans la logique de tout m'est dû, c'est il doit y avoir un destin quelque part qui fait que ça va se réaliser quand même. Et j'attends que ça se réalise. Et si ça ne se réalise pas, c'est vraiment dégueulasse. Après tout ce que j'ai fait. Moi qui suis si bon. Si gentil. Et vous allez être dans le ressentiment. Quand vous acceptez que rien n'est dû, vous comprenez qu'en fait, ce qu'il faut faire, on n'est pas des victimes de la vie. Personne n'est une victime de la vie. Ça ne dépend que de vous. C'est pas pour ça qu'on réussit à tous les coups. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, le bonheur, c'est une affaire qu'il faut réaliser, qu'il faut faire. C'est du travail, si vous voulez. Et c'est pas ce qui arrive comme si les lois de l'univers convergeaient pour que ça se réalise à un moment donné. Donc ça, c'est la première chose qui est positive. Ça pousse à l'action. Plus vous allez être dans l'acceptation que rien n'est dû, et plus vous allez non pas être abattu, ça c'est la résignation qui n'a pas encore accepté la chose, plus vous allez être dans « il faut donc que je me bouge ». Et c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est tout de suite. Enfin, attendez quand même la fin de la journée, mais hein, donc c'est voilà, le plus vite possible. Deuxième chose, il y a des petits malins qui un jour m'ont fait une objection quand je racontais ça, et qui m'ont dit « oui, mais M. Longuiot, on se bouge, mais comme il n'y a rien qui nous est dû, ben, c'est pas parce qu'on se bouge qu'il nous est dû d'être heureux ». Et c'est tout à fait juste. Du coup, là, je vous avoue, j'ai eu un petit temps quand même de me dire, ah ben merde, alors c'est vrai que, bon, finalement, on peut encore désespérer un coup. Et bon, alors, comment, du coup, j'ai cherché. Et,
mais, alors, coup, quand on peut accepter de désespérer.
Ben bien sûr, on pourrait, oui, mais, bon, oui, pourquoi pas, on pourrait accepter éventuellement. Mais enfin, c'était pas ça la voie que j'ai cherchée. Et donc, quand je cherche, donc c'est pas chercher dans des livres une espèce de démonstration qui convaincrait de quoi que ce soit, c'est pas ça. Donc je cherche des témoignages. Pour voir s'il y a des gens qui ont vécu quelque chose qui permettrait de penser que il y a encore peut-être une réponse quand même, hein, à cette espèce d'objection qui est un peu théorique, hein, où on retourne le truc contre lui-même, quoi, si vous voulez. Hein. Et c'est vrai que j'ai donc rencontré, donc c'est pas compliqué finalement, comme quoi le destin fait toujours bien les choses, malgré tout. J'ai rencontré à ce moment-là des personnes qui ont eu, hein, et c'est parfois un thème qu'on voit d'ailleurs dans les médias, qui ont bouleversé leur vie. Ils avaient un métier, ils arrêtent tout, ils font autre chose, hein, des trucs pareils, quoi. Et j'ai eu notamment la chance de rencontrer un avocat, qui était avocat donc, et qui arrêtait son métier pour devenir artiste. J'imaginais la chose. Et ce monsieur, en discutant avec lui, m'a fait comprendre qu'il y a peut-être une réponse à cette objection. Oui, mais enfin, c'est quand même pas réjouissant votre truc, parce que comme rien ne nous est dû, il nous a pas dû d'être heureux aussi. Eh bien, ce type-là m'a raconté, quand vous êtes dans cette posture, alors lui le disait avec ses mots, hein, il ne le disait pas comme je vous le raconte ici, mais quand vous êtes dans cette posture, dans cette acceptation de l'incertitude, vous n'avez plus besoin de la garantie que ça va marcher pour oser entreprendre. Et c'est là que vous gagnez une liberté extraordinaire. Donc c'est vrai qu'il ne nous est pas dû que ça marche quand on se bouge pour essayer de rendre les gens heureux. Bien sûr, ça peut toujours capoter, ça peut toujours échouer d'une manière ou d'une autre, c'est une évidence. Mais ce type-là m'a appris que quand vous êtes vraiment dans cette acceptation que rien ne vous est dû, eh bien, on ne fait pas n'importe quoi. Donc lui, il m'a expliqué concrètement, ben voilà, donc j'ai travaillé encore 3 ans au barreau pour mettre de l'argent de côté quand même, pour essayer d'assurer mon truc, mais à un moment donné, il faut bien vous jeter, quoi. Eh bien, ce courage-là, si vous voulez parler en termes de courage, eh bien, c'est la force que vous avez quand vous vous êtes libéré de l'exigence que ça puisse marcher. Si vous voulez des garanties pour être sûr que ça va marcher ce que vous allez faire, ben vous ne ferez jamais rien. Concrètement, dans le cas de ce monsieur, ben, je vais quand même travailler encore une 4e année au barreau, parce qu'on ne sait jamais que je n'ai pas mis assez d'argent de côté. Puis après une 4e année, on va arrondir la somme, encore une 5e année. Puis, les temps deviennent durs, peut-être une 6e. Finalement, vous ne faites jamais rien, parce que vous n'avez jamais la garantie que ça va marcher, évidemment. Hein. Donc, premier point, c'est qu'on découvre qu'on se bouge, il faut se bouger pour être heureux. Il ne faut pas attendre que ça vienne de je ne sais où. Et vous comprenez en quoi un mauvais usage de certaines croyances religieuses peuvent nous détourner de ça. Hein. Et c'est terrible parce que ça nous enferme dans le statut de victime et des trucs pareils. Hein. Mais ça, ce sont des interprétations qui sont critiquables, évidemment. Hein. Donc ici, voilà, bougez-vous. C'est cette force-là que l'on acquiert, évidemment. Et bougez-vous en acceptant de ne pas avoir la certitude que ça va marcher votre entreprise. Bien, quand vous avez accepté les règles du jeu, c'est une chose qui devient évidente. Parce que vous savez pourquoi ça devient évident, parce que vous savez que vous n'aurez jamais la garantie, quoi que vous fassiez. Donc autant l'accepter. Enfin, de toute façon, même si vous ne l'acceptez pas, c'est avec ça que vous jouez, de toute façon. Donc, bien évidemment. Troisième chose, quand on se casse la figure maintenant, on échoue dans ses projets, parce que l'objection revient quand même. Oui, mais et donc, et quand on se casse la figure, eh bien, la seule chose que je peux vous dire, ça va aller très vite, c'est que quand on se casse la figure dans un projet qu'on avait et qui nous tenait à cœur, eh bien, c'est un deuil. Et donc, c'est une tragédie. Et tout ce que je vous ai raconté ne vous empêchera pas de souffrir. Alors on peut toujours être stoïcien si vous voulez. Hein. Ce qui est vrai, c'est que peut-être que vous gagnez une toute petite chose quand même. Donc ce sera une souffrance. Hein. Donc ça, vous ne me ferez jamais dire autre chose. Mais peut-être que, à la différence de ceux qui sont dans tous mes dus, cette souffrance de l'échec d'un projet sera peut-être vécue sans le sentiment que c'est injuste. Donc c'est un échec. J'ai pas ce que je voulais, donc évidemment ça me blesse, j'ai tout perdu dans l'aventure. Hein, y a des gens qui m'ont raconté ça, j'ai vendu ma maison et tout ça, et j'ai tout perdu moi dans mon... Donc évidemment c'est une tragédie, mais ça faisait partie du jeu, si vous voulez. Et donc il n'y a pas à y voir de l'injustice ou que sais-je d'autre, c'est comme ça. Donc on souffre, mais on ne redouble pas la souffrance avec le sentiment de l'injustice. Ou sinon, si vous le faites, vous comprenez ce que ça vous donne, hein. Ça peut-être que vous connaissez des gens, vous vous êtes enfermé dans le ressentiment. Ce sont des gens qui ont échoué dans un projet de vie, et puis désormais, comme ils sont persuadés qu'avec tout ce que j'avais fait, ils m'étaient dû que ça marche quand même mon truc, eh bien ce sont des personnes qui vont désormais être dans le ressentiment, décidément la vie est mal faite. C'est dégueulasse. Et voilà, ils vont tourner en rond dans cette espèce d'aigreur à l'égard de l'existence, et eux, ils ont du mal à en sortir. Et vous avez des gens, parfois c'est jusqu'à leur dernier souffle, hein, décidément la vie était pourrie, enfin. Mais quand vous êtes dans l'acceptation que rien n'est dû, donc les blessures restent des blessures, hein. Ça c'est impossible de faire autrement. Mais on peut peut-être tourner la page un peu plus vite, et ne pas s'enfermer en tout cas dans ce ressentiment. Et puis, et on va terminer donc en beauté, eh bien, dernière chose qui est vraie, c'est que plus vous acceptez l'incertitude de l'existence, et plus vous rendez le bonheur possible. Et nous y voilà enfin. Alors pourquoi ? Je vais vous donner juste une histoire, et on va terminer avec ça, parce que je déborde encore du rabiot qu'on m'a donné. Je m'en excuse. Mais juste une histoire pour que vous compreniez. Ce sont des parents qui m'ont raconté ça. Il nous est dû que nos enfants nous disent merci, avec tout ce qu'on leur donne. Eh bien, plus vous êtes dans « ça m'est dû », les merci que vous recevez, c'est « il ne manquerait plus que ça qu'ils ne disent pas merci ». Il n'y a pas de bonheur. C'est la convention des règles de politesse, si vous voulez. Hein, et si jamais il ne le fait pas, hein, je vous ai miné la scène hier, hein, c'est quand un gamin ne dit pas merci, dit, tu reviens ici donner une bise pour dire merci, hein, ça va ? Et on est choqué de ne pas avoir ce merci. Il y a des parents donc, qui m'ont raconté ceci, je pense notamment à un père, il me disait, à un moment donné, donc les enfants deviennent des adolescents, et le merci, vous pouvez toujours pleurer après, vous ne les avez plus. Hein, donc ils prennent et hop, c'est parti, quoi, hein, comme si ça leur était dû. On sait qu'ils connaissent les règles de politesse, on les a éduquées, mais ils ne veulent plus les jouer. Alors au début, évidemment, on pleure après, mais quand on pleure après, ils vous remballent un merci comme si c'était une insulte. « Ouais, ça va, merci, tiens, attrape, quoi, paf !» Et on n'est pas content. C'est un jeu de dupe, quoi. Et du coup, ses parents, ils m'expliquent avec leurs mots à eux, donc, mais je vais le dire avec les mots à moi ici, donc, font le deuil, il n'y a rien qui m'est dû. On n'a pas des enfants pour avoir des merci. Et ce qui est vrai. Et du coup, ils se mettent vraiment dans, enfin, d'après ce qu'ils me disent, du moins, ils se mettent vraiment dans la posture « je n'attends plus rien de mes enfants ». Ils ne sont pas là pour faire mon bonheur. Moi, je suis là pour essayer de les éduquer, pour les rendre heureux, tant qu'ils ont besoin de moi, puis après, ils font leur vie. Et donc, ce sont des parents qui ont continué à donner sans plus attendre de merci. D'accord ? Et ça a duré quelques mois, quelques années peut-être, je ne me souviens pas. Eh bien, ces parents m'ont expliqué, quand vous n'attendez plus rien, parce que vous savez que rien ne vous est dû, donc ils n'attendaient plus les merci, un jour, leurs enfants, d'eux-mêmes cette fois-ci, leur ont dit merci pour je ne sais plus quoi, enfin peu importe ici, eh bien, ils m'ont expliqué, ce merci que vous recevez alors qu'il ne vous est pas dû, c'est un merci qui vous touche. Quand vous êtes dans l'attente, c'est « il ne manquerait plus que ça que je ne l'ai pas ». Tu avais intérêt à le dire, hein, sinon la fois prochaine, vous êtes dans un contrat, dans un salaire qui vous revient, si vous voulez. Quand vous avez compris que la vie peut tout vous reprendre, eh bien, tout ce que vous recevez de la vie, d'abord, vous le voyez. Quand vous êtes dans tout est normal, vous ne voyez rien. Il ne se passe que la routine, quoi, si vous voulez. Quand vous comprenez qu'il n'y a rien qui est normal, que tout peut basculer, que vous pourriez déjà être mort peut-être 3 fois, mais que vous êtes toujours là, eh bien c'est vrai qu'il y a plein de gens qui témoignent de ça. Quand on prend conscience de cette incertitude de l'existence, on se rend compte que tout est un cadeau. Le bonheur est possible uniquement quand d'abord vous avez compris qu'il n'y avait rien qui vous était dû. C'est la condition. Si vous regardez, hein, on pourrait faire l'exercice, vous pourriez réfléchir à ça. Quand vous essayez de vous souvenir de 3 moments qui vous ont rendu particulièrement heureux, parmi d'autres, enfin, j'espère qu'il y en a plus que 3, enfin bon, 3 seulement, vous allez voir que fort probablement, je ne mets quand même pas ma main à couper parce que je ne connais pas la vie de tout le monde évidemment, mais fort probablement, pour 2 des 3 au moins, ce seront des moments que vous avez vécus qui ont été vécus sur fond d'incertitude. C'est soit la chose qu'on attendait, et puis ça n'arrivait pas, alors on n'y croyait plus, et puis finalement ça s'est quand même produit par exemple. Ou bien c'est la chose qu'on n'attendait pas du tout. Et boum, les autres ont pensé à faire quelque chose qui vous a totalement surpris, ça a été un moment de bonheur. Ou que sais-je, vous avez des variantes à l'infini, mais toujours est-il que bien souvent dans les histoires qu'on me raconte, quand on essaye d'évoquer « mais qu'est-ce qui m'a rendu un jour heureux ?» Eh bien c'est un moment qui a été vécu sur fond d'incertitude. Donc l'incertitude, loin d'être une objection « mon Dieu, panique à bord, la vie peut tout me reprendre, c'est une tragédie », en réalité, plus vous l'apprivoisez, plus vous le faites vôtre, et plus, en fait, c'est la seule chose qu'on puisse dire en tant qu'être humain. C'est pas que plus vous serez heureux. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est une formule de Kant qui pourrait être utilisée ici, qui dit « et plus vous vous rendez digne pour le bonheur », c'est-à-dire plus vous vous rendez apte à pouvoir jouir des choses de la vie. Par contre, plus vous êtes dans « la vie doit être comme ça et pas autrement », tout n'est plus qu'un contrat que vous passez avec tout le monde. Et il n'y a pas de bonheur possible, évidemment. Hein, c'est dans l'ordre des choses. Les choses rentrent dans l'ordre, effectivement, quoi. Donc, l'incertitude est la condition du bonheur. Maintenant, vous comprenez bien, on ne peut rien dire d'autre. Quand on est philosophe, en tout cas, on ne peut rien dire d'autre. Parce que ce n'est pas parce que maintenant je suis digne du bonheur que je serai heureux, puisque la vie ne me doit rien. Mais si jamais j'ai la chance de rencontrer des moments heureux, alors parce que je suis sensible à pouvoir accueillir ces moments-là, eh bien, à ce moment-là, je les verrai. Mais n'empêche que ce n'est pas compliqué, hein. Il y a des gens qui racontent ceci. Donc, quand vous avez compris que votre vie ne vous est pas due, rien que ça. Donc, il y a des gens, c'est peut-être exagéré, enfin, je vous laisse apprécier, mais il y a des gens qui disent, quand vous avez vraiment compris, donc pas intellectuellement, mais quand on le vit, que de fait ma vie ne m'est pas due, j'aurais pu déjà être mort 3 fois. Eh bien, rien que de se sentir vivant, c'est déjà un bonheur. Rien que ça, alors que je ne fais rien. Mais c'est déjà un bonheur en soi, et puis après, toutes les choses qu'on peut rencontrer, évidemment. Enfin, voilà. Donc, le bonheur, qu'est-ce que c'est? Ça, je n'en sais absolument rien. Il n'y a pas de formule générale, si vous voulez. Mais ce que l'on peut expliquer, c'est comment on fait pour être heureux. Et c'est vrai que pour reprendre la formule, hein, le bonheur à l'épreuve du réel, ce n'est qu'en acceptant le réel et l'incertitude de la vie, donc, que le bonheur devient possible. Et il sera différent pour chacun d'entre nous, probablement, hein, bien évidemment. Voilà, mais je me tais parce que j'ai trop parlé. Merci pour votre écoute.